Gustave le Rouge, les aventures de Todd Marvel, détective milliardaire. Le 7e épisode. Haut les mains. Chapitre 1er. Les aveugles guitaristes. Rio Blas et Guasco avait eu le visage brûlé par l'explosion d'une mine. On avait pu leur sauver la vie, mais ils étaient demeurés aveugles et atrocement défigurés. En pleine force, ils avaient à peine 35 ans. Ils s'étaient trouvés du jour au lendemain acculés au suicide ou à la mendicité. Finalement, ils avaient trouvé un moyen terme. Et de prospecteurs, ils étaient devenus guitaristes ambulants. Leurs débuts furent modestes. Ils arrivaient dans un village ou dans un ranch à la tombée de la nuit et faisaient danser les femmes et les filles de cow-boys. En exécutant quelques-unes de ces vieilles habaneras mexicaines, où se retrouve toute l'ardeur mélancolique, toute la tristesse passionnée de l'âme espagnole. On les payait de leur peine en leur donnant largement à manger et surtout à boire, en leur accordant une couverture et un lit de paille de maïs dans l'étable. Et ils se sentaient presque consolés de leur chagrin quand la fin d'un de leurs morceaux était saluée par des « anda » et des « olé » d'enthousiasme, scandés parfois par le crépitement d'un Browning dont quelques cow-boys mélomanes déchargeaient en l'air les six coups en guise d'applaudissement. Très rapidement, ils devinrent populaires sur toute la frontière de l'État du Texas. Parfois même, ils franchissaient le Rio del Norte pour aller jouer dans quelque hacienda du Mexique. Mais en général, ils restaient fidèles à la rive américaine. Au début, ils jouaient d'une façon quelconque. Mais leur sens de la musique s'affina, se perfectionna. Aux airs les plus rebattus, ils ajoutaient une broderie d'originales fioritures. Même ils improvisaient. L'âme sauvage et délicate de cette fruste population salua en eux ces artistes. Quand un propriétaire de ranch mariait un de ses enfants, célébrait la vente avantageuse d'un lot de chevaux ou donnait une fête quelconque, Rio Blas et Guasco étaient appelés. À table, on les mettait à la place d'honneur. On les gardait tant qu'il leur plaisait de rester, et on ne leur envoyait jamais que les poches bien garnies. Ce soir-là, ils revenaient de chez le seigneur Velasco, un ranchero, propriétaire d'un troupeau de 50 000 têtes, un des plus riches de la région, chez lequel ils avaient passé 3 jours. Cheminant paisiblement au clair de lune, ils regagnaient la petite ville de Presidio, distante d'environ 4 000. On leur avait offert de les reconduire dans un car. Ils avaient préféré faire la route à pied, en suivant les rails d'une voie de chemin de fer qui ne servait qu'une fois ou deux chaque mois au transport des chevaux. Les instruments en bandoulière, de solides bâtons en main, les deux aveugles marchaient allègrement, tout joyeux d'une vingtaine de dollars qu'ils devaient à la munificence du seigneur Velasco. L'atmosphère était d'une exquise douceur. La brise rafraîchie par la rosée était parfumée par l'odeur puissante de térébinthe. Le silence de cette belle nuit n'était troublé que par le bruissement des insectes et le mugissement mélancolique des immenses troupeaux errant en liberté dans la pampa. De temps en temps, Rio Blas faisait sonner de son bâton d'acier des rails et s'assurait ainsi qu'il était toujours dans la bonne route. Brusquement, et pour ainsi dire, d'un même mouvement, les deux aveugles s'arrêtèrent et tendirent l'oreille. « Tu entends ?» murmura Rio Blas en se penchant vers le sol. « Il y a certainement un grand troupeau de chevaux à peu de distance de nous. »« Tu es sûr que ce sont des chevaux ?» répondit Guasco. « Impossible de s'y tromper, Écoute toi-même. Les bœufs ne frappent pas la terre de cette façon. D'où peuvent-ils venir? Bah, sans nul doute, du ranch de Stebbing, l'Américain. Et on les conduit à Presidio pour les embarquer à destination de la Nouvelle-Orléans. Alors, s'écria Guasco avec inquiétude. Nous sommes sur leur chemin et ce n'est pas rassurant. Les deux aveugles savaient par expérience ce qu'est le passage de 2 ou 3 000 animaux, à peu près sauvages, que chassent devant eux des cow-boys armés de lasso. Rien ne résiste à une pareille trombe. Le moins qui put arriver au pauvre musicien était d'être foulé aux pieds et d'avoir la poitrine défoncée à coups de sabot. Quelques minutes s'écoulèrent. Le bruit se rapprochait avec une rapidité inquiétante. La terre durcie par le soleil résonnait au loin sous le sabot des mustangs comme à l'approche de quelque cataclysme. Gagnons un des bois qui se trouvent sur la gauche, proposa Royo Blas. Nous nous mettrons à l'abri derrière les troncs d'arbres. Là, nous serons en sûreté. Mais il faut nous hâter. Le troupeau est maintenant à moins d'un mille. Sans répondre, Guasco prit le bras de son compagnon et tous deux se mirent à courir du côté où ils entendaient le murmure des feuillages agités par la brise. Mais ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure d'une course folle qu'ils atteignirent les premiers arbres du bois. Un bois composé de cèdres et de térébintes qui couvre encore une partie de la Géorgie, de la Floride et du Texas. Abrités par les vastes troncs, ils reprirent haleine. Le troupeau de chevaux passa à une faible distance d'eux avec le bruit d'un ouragan. Puis, petit à petit, la campagne rentra dans le silence. « Ah, nous l'avons échappé belle !» murmura Guasco en s'épongeant le front. « Il s'agit maintenant, » grommela Rio Blas, de retrouver notre chemin. Ah, ça sera facile. Tout à l'heure, nous avons marché contre le vent. Bon, es-tu bien sûr? Il me semble à moi, au contraire, que nous avons marché dans le sens de la brise. Après une courte discussion, les deux aveugles se remirent en route. Mais au bout d'une centaine de pas, ils trouvèrent un autre bois. Ils revinrent en arrière. Marchèrent pendant un quart d'heure en terrain découvert, puis de nouveau se heurtèrent à des touffes de palmiers nains qui leur indiquaient les approches d'une forêt. « Ah, nous sommes égarés !» déclara tristement Guasco. « Ah, c'est malheureusement vrai !» murmura Rio Blas. « Essayons encore. Nous ne devons pourtant pas être très loin de la voie du chemin de fer. » En cela, ils se trompaient. Dans leur fuite précipitée, son compagnon et lui s'étaient éloignés des rails de plus d'un demi-mille, et dans leur vaine tentative pour retrouver leur chemin, ils s'étaient avancés de plus en plus vers le sud-ouest dans une contrée très boisée, où il n'existait pas de sentier frayé. Ils auraient passé gaiement leur nuit à la Belle Étoile, ce qui leur était advenu maintes fois au cours de leur existence aventureuse, mais ils commençaient à se sentir fatigués. En outre, on les attendait le lendemain aux noces de la fille d'un ranchero, et ils commençaient à craindre de ne pouvoir y arriver en temps voulu. S'encourageant mutuellement, ils se mirent à marcher à l'aventure, comptant toujours sur un heureux hasard. Ils étaient revenus 20 fois sur leur propre piste. Ils n'avaient plus la moindre notion de l'endroit où ils pouvaient se trouver. « Moi, je suis accablé de fatigue, » déclara Rio Blas. « Il m'est impossible d'aller plus loin. Il me semble entendre l'aboiement d'un chien pas très loin d'ici. Je vais aller à la découverte. »« M'abandonne pas !» s'écria Rio Blas en se cramponnant désespérément au bras de son camarade. « Ne nous séparons pas. » Sans quoi, nous ne pourrions plus nous retrouver. Guasco se rendit à ses raisons et tous deux se dirigèrent lentement du côté d'où partaient les aboiements. Ils sentaient maintenant sous leurs pieds le sol d'un sentier battu ou d'une route, et l'espoir leur était revenu. Leur découragement s'était envolé comme par magie. Ils se trouvèrent bientôt devant une muraille de planches qui était celle d'une maison. En tâtonnant, ils en firent le tour jusqu'à ce qu'ils eussent découvert une porte. Alors ils se mirent à frapper dedans à coups de pied et à coups de poing. Personne ne leur répondit. La maison pourtant était habitée, car ils distinguèrent une voix d'homme mêlée aux aboiements du chien. Ils continuèrent à cogner de toutes leurs forces en faisant un infernal vacarme. Cette insistance eut un résultat auquel ils ne s'attendaient guère. Une petite fenêtre s'ouvrit brusquement au-dessus de leur tête. 5 ou 6 coups de revolver éclatèrent dans le silence de la nuit et des balles sifflèrent aux oreilles des malchanceux aveugles. En même temps, une voix d'homme criait avec colère en anglais. « Passez votre chemin, coquin, y a rien à voler ici. » Puis la fenêtre se referma. Les aveugles avaient eu grand-peur. « Oh, on nous prend pour des bandits !» fit tristement Guasco. « Il ne nous reste plus qu'à nous en aller. »« Oh, c'est pas mon avis !» dit Rio Blas, qui était d'un caractère très opiniâtre. « Nous avons un moyen de nous faire reconnaître pour d'honnêtes gens. » Nous sommes estimés et aimés dans toute la région. Ah, je suis sûr que quand le propriétaire de cette maison saura qui il a affaire, il s'empressera d'ouvrir. Ah, mais quelle est ton idée? Bah, nous allons simplement exécuter un de nos airs les plus en vogue. Tu verras que ce moyen est infaillible. Essayons toujours. Les deux musiciens saisirent leur guitare et se mirent à jouer avec toute la virtuosité dont ils étaient capables la célèbre habanera mexicaine sous les jasmins en fleurs. Rio Blas ne s'était pas trompé. Au bout de quelques minutes, les aboiements du chien se turent. La porte s'ouvrit toute grande et une voix bourrue mais cordiale invita les deux aveugles à pénétrer dans l'intérieur de la maison. « Fallait dire que c'était vous. J'aurais ouvert tout de suite, » fit l'homme. « Nous avons essayé, » répliqua Guasco. « Vous avez commencé par nous tirer dessus. »« Dame, à cette heure-ci, vous savez, dans un endroit aussi désert, il est bon de prendre l'offensive sans attendre d'avoir reçu une balle dans la peau. » Excusez-nous, mais nous nous sommes égarés en revenant de l'hacienda du seigneur Velasco. Sommes-nous loin de Presidio? Ah, vous en êtes à moins d'un mille. Cette réponse surprit beaucoup les aveugles, qui se figuraient être au moins à 3 000 de la ville. Finalement, ils se réjouirent de s'être ainsi rapprochés de leur but sans s'en douter. De cette façon, ils pourraient être revenus à Presidio encore assez à temps pour se rendre à la noce où ils étaient attendus. Cependant, leur hôte se montrait maintenant aussi plein de prévenance qu'il avait été tout d'abord peu accueillant. Il ouvrit en leur honneur une boîte de corned beef et leur versa à chacun un gobelet de cette brutale eau de vie de canne à sucre. La cagne, dont malgré l'interdiction de l'alcool, le débit n'a nullement diminué sur la frontière du Texas. Ragaillardi par ce lunch, les aveugles déclarèrent d'une même voix que leur fatigue avait disparu et qu'ils étaient prêts à se remettre en route. « Puisque vous vous rendez à Presidio, » dit alors leur hôte mystérieux, « vous pouvez me rendre un petit service, service que je rétribuerai d'ailleurs généreusement. » Ah, les aveugles protestèrent de leur dévouement et de leur bonne volonté. « Voici de quoi il s'agit, » expliqua l'homme. « Un de mes cousins vient d'avoir les côtes enfoncées d'un coup de pied de cheval. Il faudrait m'aider à le transporter jusqu'à l'hôpital de Presidio. 1 000 est bientôt fait, je vous donnerai à chacun $5. » Les aveugles eurent un moment d'hésitation, puis la cordialité de leur hôte, l'offre alléchante de $5, les décidèrent. « C'est entendu, » dit Guasco. « Avez-vous au moins ce qu'il faut ? » Ah oui, j'ai une civière, dont vous prendrez chacun l'un des bouts. Vous pourrez sans doute observer Rio Blas, relayer de temps en temps l'un ou l'autre de nous deux. Bah, malheureusement, non, j'ai eu moi-même le bras cassé le mois dernier. Je ne puis encore m'en servir. Mais je viendrai avec vous en cas de mauvaise rencontre. Voulez-vous que je vous donne tout de suite les 5 dollars? Vous pourrez aussi bien nous les donner quand nous serons arrivés. Non, je vais vous les donner maintenant. Et il mit dans la main de chacun des aveugles 5 belles pièces d'argent. Rio Blas et Guasco, qui avaient craint un moment qu'on ne leur donnât un bacnat dont leur était difficile de contrôler la valeur, la fausse monnaie est très répandue au Texas, ils furent tout à fait gagnés par leur façon de leur hôte. Après avoir absorbé une dernière rasade de cagna, ils saisirent chacun les 2 poignées du brancard et l'on se mit en chemin assez lentement, car le blessé était lourd. L'homme, cependant, les encourageait de toutes les façons. Il leur promit même 2 dollars de supplément quand on serait arrivé à Presidio. « Vous ne savez pas quel important service vous me rendez, » leur répétait-il. « Sans vous, mon cousin aurait peut-être succombé, faute de soins, tandis que bien soigné à l'hôpital, il s'en tirera. » On franchit sans incident la distance d'un demi-mille. Mais alors, le pas cadencé de plusieurs chevaux se fit à entendre à une faible distance. Ils avançaient assez lentement. Rien qu'au rythme de leurs pas, déclara Guasco qui marchait en avant, je devine que chaque cheval a son cavalier. Ce sont sans nul doute les Rangers, dit Rio Blas. Et très probablement, balbutia l'inconnu. Je vais en avant leur dire un mot. Et l'homme s'éloigna précipitamment. Les Rangers constituent un corps de police monté que l'on ne trouve guère que sur la frontière mexicaine. Dans ce pays où pullulent les bandits de tout genre, assassins, voleurs de bestiaux, faux monnayeurs, les Rangers rendent d'inappréciables services. Choisis parmi les cowboys les plus robustes et les plus lestes, pourvus d'excellents chevaux et généralement commandés par quelques vieux coureurs de prairie, promus au rang de capitaine, ils se transportent avec la rapidité de l'éclair à l'endroit où on a besoin d'eux. Il est rare qu'un malfaiteur leur échappe. Pour l'atteindre, ils feront parfois 50 000 sans débrider. D'ailleurs, leurs procédés sont expéditifs. Si l'homme qu'ils doivent arrêter ne lève pas les mains assez promptement au cri de « Hands up !», ils tombent percés de plusieurs balles avant d'avoir eu le temps de leur parlementer. Dans tout le Texas, les Rangers sont redoutés et respectés. Le capitaine de la troupe qui s'avançait à la rencontre des 2 aveugles était un certain Burton, dont la perspicacité aussi bien que la farouche énergie était légendaire. À la lueur éblouissante du clair de lune, il avait de très loin reconnu les 2 aveugles guitaristes, qu'il avait en grande estime, mais il avait été fort surpris de voir l'homme qui les accompagnait se perdre dans le sous-bois sitôt qu'il avait pu reconnaître la police montée. « Voilà qui est bizarre, » fit-il en sifflotant. Puis il faut que je voie ce qu'il y a sur cette civière qui paraît si lourde. Est-ce que nos braves aveugles feraient la contrebande? Halt, vous autres! Commanda-t-il à ses hommes. D'un bond, il avait sauté à terre. Bonsoir, Gasco, dit-il d'un ton de cordialité. Bonsoir, Rio Blas. « Où diable allez-vous à par ailleurs ?»« À Presidio, capitaine !» répondit ingénument Rio Blas. « Mais vous y tournez le dos. Vous en êtes à près de 4 000 et vous marchez droit vers le Rio del Norte. »« Alors on s'est moqué de nous !» s'écria Guasco avec amertume. « Qui cela, on ?» L'homme qui était avec nous et qui nous a prié de porter son cousin jusqu'à l'hôpital. « Il est parti, il n'y a qu'un instant pour vous parler. »« Personne n'est venu me parler. J'ai vu seulement un homme qui fuyait à travers le bois. Les aveugles demeuraient muets de surprise, consternés et furieux, qu'on eût ainsi abusé de leur bonne foi. Le capitaine Burton était très intrigué. « Il faut que cette histoire s'éclaircisse, » déclara-t-il rudement. « Et d'abord, voyons. » D'un geste brusque, il avait relevé la couverture qui dissimulait le visage du blessé. Une face immobile et blême apparut. Les paupières étaient closes, les lèvres exsangues et le front barbouillé de sang. « Misérable !» s'écria-t-il dans le premier élan de surprise et de colère. « Mais c'est un cadavre que vous portez. Vous alliez sans doute le jeter dans le Rio del Norte qui coule à 100 pas d'ici. »« Santa Maria !» bégaya Guasco d'une voix étranglée. « Peut-on nous accuser d'un crime pareil, nous qui sommes aussi innocents que l'enfant qui vient de naître ?» Il y avait tant de sincère indignation dans l'accent du pauvre aveugle que le capitaine Burton hésita. « Ah, nous verrons cela, grommela-t-il. Vous avez peut-être été sans le savoir les complices d'un assassin. » Le capitaine des Rangers s'était de nouveau baissé vers le cadavre, mais presque aussitôt il se releva en donnant tous les signes d'une surprise arrivée au paroxysme le plus aigu. « Carajo ! » s'exclama-t-il. « Aussi vrai que je m'appelle William Burton, ce cadavre est celui de Gérard Perkin, le sous-directeur de la Mexican Mining Bank, l'auteur du vol de 2 millions de dollars comme il y a quelques heures à peine. » Tumultueusement, les Rangers avaient sauté en bas de leur monture. Sans la moindre hésitation, ils identifièrent Gérard Perkin, que tout le monde connaissait à Presidio. Quant aux aveugles, ils étaient atterrés, tellement émus qu'ils étaient incapables de prononcer une parole. Les policiers, de leur côté, étaient presque aussi stupéfaits de la tournure incompréhensible et extraordinaire que présentait cette aventure. Tous, pendant une longue minute, demeurèrent silencieux, en proie à une secrète inquiétude. « Voyons d'abord si Perkin est bien mort, » dit tout à coup le capitaine Burton. « Il vit encore, » fit-il après un rapide examen. « Mais il n'en vaut guère mieux. » Il a une balle derrière l'oreille. S'il pouvait parler, balbutia Guasco, il nous dirait que nous sommes innocents. Ben, je crains fort qu'il ne reprenne pas connaissance, fit Burton. Avec une blessure de genre, je ne lui donne pas 3 heures à vivre. Alors c'est nous qui serons accusés, demanda Rio Blas avec angoisse. Ben, je ne dis pas cela, mais je suis cependant obligé de vous emmener en prison. Les deux aveugles étaient dans un tel état de prostration et d'épouvante qu'ils ne trouvèrent rien à répondre. On les fit monter en croupe de 2 Rangers. Le blessé fut placé dans une charrette qu'un cavalier était allé chercher, à franc étrier, à l'hacienda la plus proche. Et le détachement tout entier reprit aussi vite que possible le chemin de la ville de Presidio. Auparavant, une battue avait été rapidement effectuée dans les bois avoisinants. On n'avait retrouvé aucune trace du mystérieux assassin qui, après avoir tué le sous-directeur de la banque, sans doute pour lui arracher le produit du vol, avait si ingénieusement utilisé comme complice les 2 aveugles que le hasard lui avait envoyés.